C'est 23.
Un condensé des meilleurs moments de Debout les comiques en format balado. Debout les comiques, juste le meilleur.
Debout, debout.
Le patineur artistique.
Oh yeah!
Oh oui! T'as le gant de crin sur un coup de soleil flambant neuf. J'égratigne tout sur mon passage.
Ouais.
Émilie Bégin souligne l'anniversaire de Guillaume le Métis Vierge. Fête qui coïncide avec la réception de son dernier T4 de Hyundai. Bonne fête, Guillaume!
Aïe, aïe, aïe!
Son vaccin est enfin arrivé, là.
Oui! On est content pour lui. Encore une fois, séparation pour la chanteuse Ima. Eh oui, elle aurait dit, et je cite, « Il m'a trompé, il m'a tout pris, il m'a me le payé. » Personne n'a personne jamais pensé le présenter Annie Brocoli. Mais ça me fait très bien ensemble, ces deux.
Aïe, aïe, aïe.
L'image, alors ça frappe, ça graffine. C'est terminé pour l'émission, première fois. Mais Véronique Loutier revient à la barre d'un grand variété. Ça va s'appeler Seconde Chance, mettant en vedette des artistes qui l'ont échappé solide et qui cherchent à faire un retour. Non, non, c'est pas vrai.
Non.
Mais, non, mais ce genre de concept, tu pourrais faire deux saisons facile.
Ouais.
La fille de Gabrielle Nanot-Dubois est née et elle a un nom très doux. Quand j'ai vu ce titre-là, ça a comme piqué ma curiosité. Je m'attendais à velours, cachemire ou encore lobe d'oreille. Lobe d'oreille Nadeau-Dubois, hein? Lobe d'oreille
bon.
Nadeau-Dubois, on dirait une devinette du pain fourra.
Ouais.
Si Pierre qui roule n'amasse pas mousse, lobe d'oreille Nadeau-Dubois.
Ouais.
Finalement, ça s'appelle Hélène.
C'est doux?
C'est doux, tu trouves? C'est pas
Hélène,
là.
Hélène, t'es doux, mais... ça le dit dans la chanson.
Ah. Oh!
Tu marques un pas. C'est là que ça vient.
J'ai cassé le patineur.
Pardon! C'est pas grave, j'en ai d'autres.
Oui.
Star Academy, depuis lundi, sur YouTube, un nouveau clip pour changer le monde. C'est audacieux, hein? Avant de changer le monde, on commencerait par les mettre au courant, là, parce qu'ils ont 12 000 views à date. C'est tranquille. C'est officiel que Kim Kardashian est finalement divorcée. Elle a choisi la semaine, elle, pour que tout le monde s'en contre-torche. Hein?
Ouais.
C'est parfait. Sabrina, d'Occupation Double, fait une mise au point sur la rumeur comme quoi elle fréquenterait l'ex d'Alicia Moffett qui, elle, fournit qu'avec Fred d'Occupation Double.
Et
on
se
souvient, Fred était par le passé en couple avec Audrey de Occupation Double.
Ils se sont échangés, hein,
sans surprise. Qui, elle, Audrey fréquente actuellement le frère de Marie-Lou, l'ex-conjointe d'Alex Champagne. Puis là, je vais arrêter ici, mais on peut remonter jusqu'à la reine facilement. Et on a parlé un peu plus tôt cette semaine, Danny Bédard se sépare en fait du groupe La Chicane, hein, pour une deuxième fois. Mais cette fois-ci, c'est définitif puisqu'il sera remplacé par Ima, nouvellement célibataire. Elle travaillait déjà en collaboration avec Boom sur une nouvelle chanson, Ima Boom 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 dans le garde-robe, dont voici un extrait.
Ima boum 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 dans le garde-robe, à travers les jupes, les chapeaux et les grandes robes. Ima boum 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 dans le garde-robe, mais ça choquait Danny Bédard.
C'est pas mauvais.
C'est pas mauvais. C'est bon, hein?
Ah oh, ouais. Il y a un potentiel.
Pense, Martin, je pourrais pas taper ça. Fait qu'on va faire des là-dessus.
T'es comique? De retour après ceci.
Debout les comiques.
96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
Tout de suite, on va aller jaser avec Loïc Tassé, notre spécialiste de la politique internationale, chroniqueur au Journal de Montréal, sur la situation en Ukraine. Allô, Loïc.
Oui, bonjour.
Bon matin, salut. Loïc. Loïc, il y a eu des négociations hier et bonne nouvelle quand même, la création d'un couloir humanitaire. C'est usuel, ça?
Oui, non, c'est normal. C'est quelque chose, c'est une excellente nouvelle. Cela étant dit, c'est pas encore fait. On va voir dans quelle mesure les Russes créent ces couloirs humanitaires pour évacuer les populations. Le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de villes qui ont été encerclées par l'armée russe et qui empêchent les civils de sortir. Mmh. Donc les femmes, les enfants, les personnes âgées n'arrivent pas vraiment à sortir de ces villes-là. Pourquoi? Parce que les voies de chemin de fer ont été détruites, les viaducs ont été détruites. Alors oui, on crée des couloirs humanitaires, mais il faut encore que les gens puissent les emprunter et sortir véritablement des villes. Donc, on croise les doigts, on espère que ça va marcher, mais c'est pas certain encore.
Et là là. Bon. Sinon, il y a une autre nouvelle qui a fait le tour du monde, évidemment, puis qui en a apeuré plusieurs, pardon. Il y a la plus grande centrale nucléaire de l'Europe qui a été bombardée hier en Ukraine. C'est une première dans l'histoire. Loïc, premièrement, est-ce que c'était volontaire? Puis deuxièmement, est-ce que c'est le début du nucléaire dans cette guerre-là officiellement?
C'est la nouvelle la plus inquiétante de la journée d'hier. Et je dirais même depuis le début de la guerre en Ukraine, parce que il y a 15 réacteurs nucléaires qui sont répartis sur 4 sites en Ukraine. Et le site qui a été attaqué, celui de Zaporizhia, a 6 centrales nucléaires. Là-dessus, il n'y en avait qu'une seule qui fonctionnait. Et fort heureusement, ce qui a été atteint, c'est un bâtiment administratif où on faisait de la formation et où il y avait un laboratoire. Donc, c'est pas la centrale elle-même qui a été attaquée. Cela étant dit, c'est assez préoccupant pour que les autorités se réunissent à l'ONU parce qu'on a quand même tiré sur une centrale nucléaire. Et ce qui est encore plus préoccupant, c'est qu'en fait, on sait que les missiles, les bombes, ça aurait été fait avec un tir de char d'assaut, mais on n'est pas trop sûr, c'est que les tirs des Russes sont imprécis. Les armements russes sont imprécis. Et donc, ça aurait pu, effectivement, facilement atteindre la centrale elle-même. Et à ce moment-là, on a une catastrophe nucléaire. On a une catastrophe nucléaire, on n'a qu'à penser à Tchernobyl.
Ben oui.
Puis il y a des gens qui disent, écoutez, ça serait une zone plus grande encore que Tchernobyl. Et donc, ça fait très, très peur, parce qu'effectivement, ça devient l'équivalent d'une bombe sale, c'est-à-dire d'une bombe radioactive qui empêche les gens de vivre pendant plusieurs décennies, si c'est pas des centaines d'années, sur un territoire donné. Donc, personne ne veut ça, évidemment. Non. Derrière ça, il y a quand même on comprend que les Russes veulent contrôler les centrales parce que c'est l'énergie part de là, puis c'est normal de contrôler les infrastructures clés. Mais est-ce qu'il fallait la bombarder véritablement? Moi, je crois pas.
Je pense pas non plus.
Et s'ils voulaient couper l'électricité au reste de l'Ukraine, ben ils avaient qu'à abattre des pylônes.
Facilement.
Et donc ici on voit une certaine irresponsabilité de l'armée russe et c'est ça qui inquiète beaucoup les gens. Heureusement, encore une fois, il semble qu'ils aient fini par laisser passer les pompiers. Heureusement, la centrale comme telle n'a pas été attaquée, mais je pense que tout le monde est en train de frémir à l'idée de ce qui pourrait arriver. Soit dit en passant, là, les destructions en Ukraine sont épouvantables et ça ressemble à ce qui s'est fait pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, c'est atroce.
Tout est touché, absolument.
C'est
tout,
la stratégie.
Les écoles, vraiment. Les hôpitaux, les musées.
J'ai entendu dire, je t'ai coupé, là, mais j'ai entendu dire un espion russe en entrevue dire ils sont en train de mettre à bout, en fait, les oligarques pour mettre un prix sur la tête de Poutine. Mais est-ce que la mort de Poutine, c'est ça qui pourrait mettre fin à la guerre?
C'est plausible, premièrement, comme hypothèse, puis deuxièmement, c'est...
Ben, c'est Poutine qui est à la tête de l'État russe, et c'est lui qui s'est hissé à la tête de l'État russe, puis qui, semble-t-il, contrôle absolument tout, et les gens sont terrorisés, on a l'impression, en tout cas, n'osent pas contredire Poutine. Donc, ça semble être lui qui est derrière tout ça. C'est sûr que si lui mourait, ben probablement que ça mettrait en partie frein à cette guerre-là. Mais il y a des gens derrière lui qui croient ce qu'il avance. Mais on voit pas la logique de l'invasion. On voit pas pourquoi la Russie fait ça. Ça coûte plus cher à la Russie que ce que ça va rapporter. Puis s'ils veulent faire un exemple, puis menacer ensuite les autres États autour, puis dire « Ah ah, regardez ce qui va vous arriver si jamais vous ne faites pas ce qu'on vous dit », ben à ce moment-là, on se dit « Mais oui, mais regardez les Ukrainiens, ils ont résisté complètement. » Donc, non, ils vont pas faire ça. Je veux dire, il y a personne qui comprend la logique derrière tout ça. On espère que, effectivement, on se dit oui, qu'effectivement, si Poutine partait à ce moment-là, ce qui se produirait, c'est que ça s'arrêterait.
Ça s'arrêterait là. Aïe, Loïc, merci pour ce matin. On se reparle lundi. On suit ça attentivement en fin de semaine.
Ça me fera plaisir.
Il y aura d'autres développements. À lundi, Loïc. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir. Loïc Tassé, spécialiste en politique internationale, chroniqueur au Journal de Montréal et chroniqueur dans Debout les comiques.
On lui souhaite un bon week-end, mais d'après moi, il n'y aura pas de week-end.
Il n'y aura pas vraiment de week-end, lui. Il est dans le jus un petit peu.
Le podcast Debout les comiques.
7h36, on a appris cette semaine que la Banque centrale, je ne sais pas si je nomme les choses comme il faut, mais en fait, on a surtout appris que le taux directeur était pour être augmenté. Et pour démêler ça pour nous autres, puis là, je pense que je l'entends soupirer ici. Il voit que je pars de loin. François Gagnon, chroniqueur financier du réseau Cogeco. Salut François.
Salut Martin.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, François.
Vrai plaisir.
Je commence vraiment avec c'est quoi le taux directeur?
C'est pas clair, là.
Oui, bien, le taux directeur, c'est la façon d'être capable de contrôler l'inflation au pays. Hein? Là, cette semaine, ça a augmenté d'un quart de 1%. Hein? On dit dans notre jargon, nous, 25 points de base. Ouais, donc, 25. On est rendu à 0,5%.
Et ça, c'est bon pour contrer l'inflation quand ça monte?
Ben, quand ça, oui, parce que là, ce qu'on veut, c'est essayer de juguler cette inflation-là pour que les gens dépensent un peu moins. Hein? Mmh. C'est sûr que ça va venir attaquer tes taux d'intérêt hypothécaires variables. Ça va venir attaquer tes dépenses de consommation parce que tes prêts personnels vont augmenter, etc., etc. Donc, si tu veux juguler un peu la demande pour être capable de contrôler un temps soit peu, par les temps qui courent, ça commence à être dur pas mal de contrôler l'inflation. Là,
ouais. Mais,
il faut augmenter les taux d'intérêt. Parce que là, on est au plancher, ça fait déjà plus que 2 ans. Là.
À cause de la pandémie, ça qu'on a fait?
La pandémie, oui, entre autres. Ouais. Et là, avec la demande, t'sais, on était un an où on était en décroissance, là, puis là, depuis un an, la croissance était spectaculaire. On a parlé de 6,7% de croissance économique au cours du dernier trimestre de 2021, puis de l'inflation à 5,1%, mais là, dans la dernière semaine, là, on parle plus d'une inflation qui jouerait au Canada autour de 6,1%.
Faut que ça soit à peu près, François, pour que ce soit de santé, mettons, une inflation, là?
Ben, normalement, c'est 2%.
OK. Hein, là, on est 3 fois dans la... Et je comprends qu'il y a un fragile équilibre, donc on peut pas monter le taux directeur de 2 points, mettons. Là, ça serait la catastrophe de l'autre bord.
Non, ça, c'est clair.
Il y a un fragile équilibre, là.
Faut pas tuer l'économie non plus. Mm-hmm. Mais là, ce qu'on parle de plus en plus, je vais t'en donner un autre nom ce matin, là, que tu vas dire, qu'est-ce que c'est ça que ça mange en hiver? On parle plus de stagflation par les temps qui courent.
Stagflation.
Stagflation, ça veut dire que t'as de l'inflation dans le pipeline, donc comme on a aujourd'hui, puis que l'économie ne croît pas. Donc, il n'y a pas de croissance économique, mais tu as de l'inflation. Ça serait la pire affaire qui pourrait nous arriver, ça.
OK.
Pour l'heure, on n'est pas rendu là, parce que l'économie canadienne va quand même relativement bien.
OK.
Mais ça va dépendre du fou à Poutine.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Moi, j'ai une question pour toi, François. Mettons, oui. Là, j'ai une hypothèque à taux variable. Là, je vois que ça l'augmente. Je vois aussi que mes placements sont en train de planter. J'ai de l'argent en ce moment, des liquidités. Je fais quoi? Est-ce que je paye mon hypothèque parce que là, l'hypothèque avance, monte, tu sais, parce que je veux pas trop payer d'intérêt, ou je le place puis je vois ça planter encore, ou j'achète un terrain?
Ben, acheter un terrain pour acheter un terrain, je dirais non, là. Ouais. pour les taux variables, regarde, le taux variable est encore beaucoup plus bas que le taux fixe à l'heure actuelle. Ouais, donc, si t'es à l'aise avec ça, il n'y a pas de problème, là, parce que c'est tellement bas, on parle encore de 1,25% pour le taux variable, là. Alors que pour le taux fixe, 5 ans, c'est autour de 3%.
Ouais.
Donc, t'as encore de la place.
Avant
que ça monte jusqu'à 3%, t'as de la place en masse.
Parfait.
Alors, moi, je m'inquiéterais pas de ce côté-là. Par contre, pour ceux et celles qui dorment mal, et qui vont s'acheter par... Ouais, allô? Ceux qui dorment mal. Ben, ce serait peut-être le temps de fixer votre taux d'intérêt. Hein? Fixez-le, puis vous allez avoir la paix pour quelques années. Mais pour ceux et celles, là, puis je veux rassurer les gens là, qui ont une hypothèque fixe déjà, ça ne vous touchera pas, vous.
OK.
Alors, puis si vous voulez avoir un truc, là, et vous achetez une maison dans 3 mois, négociez votre taux tout de suite, faites-les geler, votre taux. Mm-hmm. Fait que comme ça, vous n'aurez pas de problème.
Et là, en terminant, François Gagnon, il nous reste à peu près une trentaine de secondes, là, mais je veux qu'on parle du prix de l'essence.
Ben oui, ça n'a pas de sens.
Là, mettons que les gens ne dorment pas, là, est-ce qu'ils vont dormir davantage? Faut-tu s'inquiéter?
Oui, je m'inquiéterais beaucoup.
C'est ça.
Parce que le pétrole augmente encore ce matin de 2%, là. Et là, on commence à faire des projections autour de 150, 160, 170 $ le baril. Je veux pas que ça se rende là. Parce que déjà ce matin, on n'est pas loin du 2$ que j'avais dit à Pauloud au début de janvier.
Ouais.
Et là, on est ce matin, là, il y a des endroits, c'était 1,90$, là.
Oui, ça.
J'ai vu aux États-Unis ce matin, 7$ le gallon, là. Fait qu'on arrive quasiment.
Californie, oui.
En Californie, c'est fou raide, là. Si ça monte, ben, on s'entend que ça impacte tout le reste de l'économie. Ouais, ouais. Hey, François, merci d'avoir pris du temps pour nous ce matin.
Merci
c'est très, très apprécié. Et ta voix émeut beaucoup de gens sur la messagerie texte.
Ah, oui. Nadia Robitaille, mon Dieu, il a donc bien une belle voix. Et Joseph Renault, sa voiture shake.
Ouais. Ça fait tomber le bâton de glace, poignée nasale.
Attention au bout.
Hey, salut François, merci beaucoup.
Salut, c'est un plaisir.
François Gagnon, chroniqueur financier ici au réseau Cogeco, je vais le dire.
T'es comique? De retour après ceci.
96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
À 7h04 au 96.9, c'est quoi? On est en compagnie de Philippe Léger, qui est observateur de la scène, politique québécoise, entre autres, parce que c'est de ça qu'on va parler ce matin. On a annoncé cette semaine, le gouvernement Legault a annoncé, la santé publique, je devrais dire, a annoncé le retrait de l'obligation du port du masque, l'abandon des mesures sanitaires. Ça s'en vient, là. Et toi, en dessous de ça, il y a une stratégie politique, Philippe.
Bien oui, hein. Qui a annoncé? Ben, tu viens de le dire, là. C'est pas François Legault qui a annoncé les dernières restrictions. Puis le port du masque, c'est quand même le symbole de la pandémie.
Ben
le
oui.
masque qui tombe.
Ben
oui. Ça pourrait être fait avec des ballons, avec une célébration. Mais non, François Legault se retire complètement de la gestion, se retire aussi de les annonces. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut arrêter d'être étiqueté à la pandémie, parce que ça lui fait mal pour les prochains mois, parce que...
On est déjà en élection, là, on va
ben
se
oui,
dire. Le 3 octobre, c'est tantôt en politique.
Ouais.
Il y a encore aussi 4 éternités en politique, mais le temps est élastique, là.
Exactement. Tu sais, ça, les élections, là, si on les prépare pas d'avance, c'est un peu comme les taxes, là. Tu vas te faire avoir après, puis tu vas payer cher. Pour le parti politique qui le prépare pas. Fait que chaque décision est prise en fonction de ça. Et François Legault observait assez bien que la grogne que la pandémie suscitait, tout le monde avait une certaine grogne. Si t'as pas de grogne envers la
tout
pandémie, t'es pas normal.
Oh.
Tout simplement. Mais cette grogne-là se dirigeait de plus en plus vers François Legault, qui lui était seulement le bénéficiaire puis devait prendre des décisions
oui.
que la plupart des gens auraient pris dans cette position-là. Donc, il voulait se retirer un peu de plus en plus de cette pandémie-là, de cette gestion-là, pour se faire plus rare. Parce que pour un politicien, être plus rare, ne pas être toujours là, ben ça peut être gagnant. Ça crée un certain mystère, ça crée un certain aura de gouvernement. C'est comme si
ça lui redonne de la grandeur. Parce que
voilà.
Moi, je trouve qu'un premier ministre qui est là tout le temps, à chaque jour, qui nous parle tout le temps, ça finit par être comme le gérant du magasin.
Je pense
qu'il faut qu'il y ait 4 étages au-dessus de ça pour
c'est
lui.
C'est le président qu'on veut.
Oui, c'est le président.
Exactement.
Le président ne parle pas à tous les jours.
Non. Et le premier ministre non plus. C'est un privilège d'entendre le premier ministre quand on l'entend parler. Ça devrait être assez rare. Et là, la pandémie, ça crée une exception. Mais la coalition Avenir Québec doit faire attention et le retirer un peu des caméras pour le ramener en campagne électorale. Parce que si on le montre pendant les 8 prochains mois, chaque
encore,
jour à la
oui.
face des Québécois, rendu au mois de septembre, l'élection le 3 octobre 2022, rendu au mois de septembre, quand on va repartir en campagne électorale, les gens vont avoir une certaine écœurantite à voir François Legault toujours.
Mais...
Et surtout parce qu'un gouvernement ne fait pas campagne sur un bilan. S'il fait campagne sur un bilan sur le passé, les électeurs vont le faire payer. Et il y a un risque pour François Legault d'être l'homme de la pandémie. Pensez à un visage.
On peut penser que les adversaires vont pilonner ça, là, d'aplomb.
Oui. Si je vous dis pandémie, au Québec, vous pensez à qui? C'est le
Horacio
visage.
Arruda ouais.
et François Legault.
Ouais.
C'est
ouais.
leur visage qui ressort. Et là, donc, je cherchais une analogie hier. C'est comme si un acteur serait tellement étiqueté à un film. Après, ça lui nuit, même si c'est un succès. La gestion de François Legault, la satisfaction, elle est relativement
haute. On a eu ça des rôles.
Exactement. Donc, si t'es tellement étiqueté à quelque chose qui appartient au passé, tôt ou tard, ça va te faire mal.
Mais je comprends, mais en même temps, je veux dire, l'annonce justement du retrait du masque, c'est extrêmement positif.
C'est symbolique.
C'est comme, oui, pour moi, c'est symbolique. Fait qu'on dirait que je ne comprends pas qu'il ne soit pas appuyé sur cette annonce-là pour nous dire, écoutez, on a géré ça. Ouais. Maintenant, là, je laisse Santé publique faire la suite. Félicitations, la gang. Ciao, bye.
Mais il ne peut pas le dire, ça. Mettons qu'il reprend la pandémie.
Ouais, c'est ça
que
j'allais dire. L'autre aspect, c'est l'imprévisibilité de la pandémie. T'sais, si ça reprend, comme Martin dit... Il est dans le trouble. Il faut qu'il revienne faire une autre annonce. Puis là, encore une fois, on va dire François Legault nous a fait des fausses promesses. C'est arrivé quelques fois les deux derniers Noël. On peut tous témoigner. Donc, c'est véritablement la raison pourquoi. Puis il y a un calcul de coût-bénéfice. C'est sûr que si François Legault se présente devant les Québécois, dit félicitations, vous avez fait un bon travail. Maintenant, on peut enlever toutes les dernières restrictions.
Ouais.
Parce que la dernière restriction qui reste, là,
c'est la
loi sur les mesures d'urgence.
Je vais t'amener sur un autre sujet. L'urgence sanitaire, effectivement, qui va être levée incessamment là, en mars, quelque chose
probablement.
Comme ça.
Probablement.
Ben là, dans les. On se le souhaite. En tout cas, ça voudra dire qu'on est de l'autre bord. J'invente 30 secondes, Philippe, pour te parler de l'élection partielle dans Marie-Victorin. Ça fait longtemps qu'on sait qu'il devra y avoir une élection partielle. Ouais. Je trouve que ça tarde. Je ne sais pas si tu sens ça toi aussi. Qu'est-ce qui fait que c'est si long? Et est-ce que ça peut être dangereux pour le gouvernement ou ça avantage qui que ça retarde autant? Parce que maintenant, ils vont arriver en même temps. Là.
Je pense pas que ça désavantage le gouvernement tant que ça, qui laisse un peu traîner les choses. Moi, je crois que le gouvernement actuellement, sa principale préoccupation, c'est de s'éloigner de plus en plus de la pandémie. Si on dans un mois, on va moins parler de la pandémie, on va dire que c'est quelque chose derrière nous. Je pense qu'il peut avoir un certain avantage du gouvernement de pas avoir une élection partielle dans ce contexte-là, okay. Dans ce contexte de pandémie, dans ce contexte de grogne. Mm-hmm. Donc, pour moi, c'est la principale préoccupation du gouvernement actuellement. Après, est-ce qu'ils veulent attendre le plus proche de l'élection possible pour que ça revienne dans un climat normal? Probablement. On verra. Bon, il y avait des rumeurs pour dire que peut-être qu'il y aurait des élections ce printemps-ci qui ne déclenchaient pas l'élection partielle pour ça. Bon, si on a moins vraiment des oreilles à la coalition Avenir Québec, on sait que c'est pas vrai. On sait qu'on va faire des élections en octobre prochain. Je suis prêt à faire un pari. À 95%, il faut toujours faire attention au pari, là, mais à 95%. Cher.
Ah
ouais? Non, merci. Cher. Mais c'est probablement en octobre prochain.
Merci beaucoup, Philippe Léger, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, entre autres, et analyste politique aussi, qui regarde ça pour nous autres ici dans Debout les comiques.
Le podcast Debout les comiques.
Salut, Max.
Salut, la gang.
Maxime, quel match du Canadien hier soir?
Incroyable. On avait un gros défi devant nous, puis je pense qu'on a donné la réponse aux gens ça sera pas si long que ça, la reconstruction, là. L'équipe est tellement bien coachée, les gars jouent tellement bien, tellement rapide, tellement d'intensité, puis finalement, je sais pas, ça sort de où, mais on dirait qu'on a énormément de caractère. Je pense qu'on doutait de ça cette année. Dossier réglé. Pour moi, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire, parce que, sérieusement, la gang, là, on va être capable de faire les séries l'an prochain, je crois.
Je pense aussi.
Il manque pas tant de joueurs que ça, et puis j'aime comment Martin Saint-Louis coach aussi, là. Hier, Suzuki a joué 24 minutes, 3 points. Il y a un but, 2 passes, plus 1. C'est lui le futur de l'organisation. Les commentaires partout, que ce soit en français, en anglais, après le match, c'est « wow, c'est son meilleur match de l'année ». Même Martin Saint-Louis l'a dit. Puis tout le monde disait il ressemblait vraiment à un jeune Patrice Bergeron. Tous les postes de télévision, tous les postes de radio, c'était ça le commentaire. Et puis ça, c'est pas rien. Là. Bergeron, c'est pas juste des buts et des passes. C'est un gars qui joue très, très bien défensivement, puis c'est un vrai capitaine. Donc, j'ai hâte de voir par où on s'en va avec ça.
Il va falloir qu'il y ait des changements quand même, ceci dit, oui. Max, mais moins peut-être qu'on pense. Là.
Non, exactement, mais tu sais, on parle souvent des gros salaires comme Price ou Weber, même s'il est blessé, là, mais on est pris que ces salaires-là, si on est capable de se départir d'un de ces contrats-là, là, d'après moi, on est pas si loin de ça d'avoir une bonne équipe, parce qu'il faut pas oublier, on est entre deux en ce moment. On est entre la reconstruction, mais la finale de la Coupe Stanley de l'an passé qui était pas si loin non plus. Donc, on n'est pas si pire que ça. Tu sais, faut pas paniquer. Je pense que ça va bien aller.
Puis, dis-moi, Ben Sherratt s'est levé hier, là. 2 buts hier, je pense, hein,
ouais.
C'est ça?
Ouais, mais, exactement.
Là, que t'en penses quoi, là? Il était temps, là? Ben, pas il était temps, mais...
ça donne bien.
Ça donne bien.
C'est juste le timing qui est très, très bon, parce qu'on se rappellera, là, les Flames de Calgary voulaient avoir Toffoli et Ben Sherratt.
Ouais.
On a décidé de juste prendre Toffoli. Puis hier, ben, bien évidemment, contre les Flames, Ben, il y a tout un match. 2 buts, jouait physique, toujours sur la patinoire lui aussi. Je pense qu'il était en train de vendre son produit, réaliser aussi qu'il avait la chance d'aller jouer pour une bonne équipe, peut-être avec les Flames de Calgary, qui ont une réelle chance de gagner la Coupe Stanley cette année. Donc moi, je pense que ça va changer les choses, puis que les Flames vont revenir sur leur décision et puis dire, finalement, on a besoin de ce défenseur-là, parce qu'on s'entend, là, Chiarot était notre meilleur défenseur en série l'an passé.
Ah oui, puis il veut jouer à Montréal, par exemple. Je trouve ça triste qu'on échange des joueurs qui veulent s'en aller, mais faut pas que je mette d'émotion, je présume, Max?
Non, exactement, mais lui, c'est vraiment contractuel. Le problème, c'est qu'il va gagner des gros bidous. Là,
okay.
Il niaisera pas. Là, c'est un défenseur. En ce moment, je pense qu'il fait 3,5 millions. Il va monter dans les 5-6. On n'aura pas de place à la masse salariale. Donc, tant qu'elle perde pour rien, ça prend au moins des jeunes.
Sinon, tu termines avec le DJ des Blue Jackets qui est furieux. Pourquoi il est fâché, le monsieur, le Kekäläinen?
Kekäläinen, c'est un nom qui me fait très, très rire, mais il a raison un peu, parce qu'il est tanné des rumeurs qu'on part toujours sur l'organisation. En ce moment, c'est que Patrick Laine serait échangé. Et c'est totalement faux. Puis il faut le comprendre. Il y a 2-3 ans environ, on a perdu tous nos super vedettes là-bas, que ce soit Matt Duchene, que ce soit Panarin, que ce soit Bobrovsky. Tout le monde est parti. Puis on dit que c'est un marché qui est pas vraiment le fun pour un joueur de hockey. Puis c'est faux. C'est un beau marché de hockey. Puis là, on part encore sur Patrick Laine. Donc il est fâché parce que ça diminue un peu la réputation de l'organisation.
Non, il a raison.
Personne veut jouer là. Puis là, à un moment donné, ils sont plus capables d'attirer personne. Il a raison.
On a déjà vécu ça ici à Montréal, à part de ça. Je suis pas sûr que c'est complètement résorbé, mais pendant longtemps, on a été boudé par les meilleurs éléments de la Ligue nationale. Merci, mon beau Max. Bonne fin de semaine.
Bon week-end, la gang.
Bon week-end, mon ami. On se retrouve lundi sans faute.
Pour plus de tes comiques, écoute 96.9 C'est quoi? quoi du lundi au vendredi dès 5h25 ou rends-toi sur c'est quoi.com.
C'est 23.